certaines rencontres nous marquent plus que d'autres. Mon invité d'aujourd'hui en fait partie. Pour fêter les 1 an du podcast, je vous propose un épisode spécial avec une personne spéciale qui a pour mission de remettre le sourire au centre de nos vies. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi d'appeler ce podcast « J'aime quand vous souriez » parce que je crois que dès lors que nous sommes à notre place, que l'on est bien dans ce que l'on fait, ce que l'on crée, nous sourions spontanément, parfois sans même nous en rendre compte. Nos yeux s'illuminent et notre regard pétille, tout comme Anne Cazobon, mon invitée. J'ai rencontré Anne lors des journées émergence à Bruxelles. C'était il y a 2 ans de cela, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces journées, elles sont organisées par Ilios Kotsou et Caroline Le Cire, qui donnent la parole à des philosophes, scientifiques, thérapeutes, photographes, praticiens du bien-être ou encore moines bouddhistes. Cette année-là, le thème était l'émerveillement, et parmi leurs invités, il y avait Anne. Je ne la connaissais pas, et j'ai découvert une femme lumineuse, passeuse de gaieté et de sourires spontanés. Elle m'a embarquée dans son univers et ça m'a fait un bien fou. Je me souviens de m'être dit, mais qui est ce rayon de soleil sur scène? Oui, je voulais en savoir plus sur elle. Au départ, Anne est journaliste et réalisatrice. En parallèle de sa vie, au sein des grandes rédactions, elle entame une sorte de quête spirituelle. Après 20 ans dans le monde des médias, elle décide de prendre un autre chemin d'expression, devenant artiste, autrice ou encore conférencière. C'est une femme à l'expression multiple et elle compte bien le révéler au monde. Elle commence par créer des concepts innovants, artistiques et poétiques. Merci à un inconnu, on fait partie. Initiative citoyenne, au moment du confinement en 2020, où Anne devient en quelque sorte une passeuse de gratitude ou encore une conteuse du vivant, en relayant des mots d'inconnus qui font du bien et réchauffent les cœurs. Son mantra, soyons tous des héros du quotidien. Un autre de ses projets qui m'a particulièrement marqué est Flying Project, lancé en 2015 au moment des attentats et qui a été d'ailleurs reconnu comme œuvre pour la paix par l'UNESCO. Puis, au fil des années et de ses expériences, elle suit son intuition et se révèle autrement, devenant coach et mentor. Elle développe des accompagnements, formations et retraites pour co-créer sa vie avec la vie, révéler sa puissance personnelle. Parmi ses accompagnements, femme de parole, pour incarner sa voix dans le monde, ou encore les constellations des possibles pour se dévoiler pleinement de l'existence. Chaque mot est une énergie qui crée notre réalité. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise de découvrir Anne pendant l'interview. C'est une femme plurielle à l'univers unique, et c'est pour cette raison que je voulais lui tendre le micro. Nous nous sommes donné rendez-vous à Paris, dans l'élégant café des éditeurs, au carrefour de Boudéon, dans le 6e arrondissement. Anne est déjà là et m'attend au premier étage. Je monte les beaux escaliers ornés de miroirs pour la rejoindre. Elle est radieuse dans une jolie robe aux rayures colorées. Quand je vous disais que c'est un rayon de soleil, que dis-je? Un arc-en-ciel. Nous installons au calme et prenons place sur les jolis fauteuils rouges du café. Micro installé, thé vert pour moi et eau pétillante pour elle, l'interview peut débuter. Bonjour Anne.
Bonjour Isaline.
Je suis ravie de te retrouver ou de te revoir aujourd'hui ici dans ce joli café à Paris. Je t'avais rencontré ou plutôt écouté aux journées émergence organisées par Ilios Kotsou à Bruxelles et c'était déjà il y a 2 ans. Ta conférence m'avait interpellée parce que je ne te connaissais pas à l'époque. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée et j'avais envie d'en savoir plus. C'est pour ça que je t'ai demandé si on pouvait faire une interview ensemble. Et je me rappelle très bien, je me suis dit quand tu étais sur scène, c'est vraiment un rayon de soleil qui est sur scène. Et vraiment, je le dis avec tout le cœur. Et voilà. Et donc... aujourd'hui, on est ici dans le 6e arrondissement et j'aimerais bien que tu, comme j'aime bien commencer la plupart de mes podcasts, si tu peux te présenter qui tu es et d'où tu viens.
Merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravie de te retrouver après justement cette escapade bruxelloise il y a 2 ans. Je trouve ça drôle parce qu'on est en effet au café des éditeurs et j'avais noté dans mon agenda il y a 4-5 mois que j'aurais un rendez-vous avec un éditeur ou que je dédiais cet après-midi à un rendez-vous potentiel d'éditeur et je n'imaginais pas une seule seconde que nous puissions avoir rendez-vous pour un podcast et que nous nous retrouvions au café des éditeurs. J'avoue que c'est de la manifestation pure et c'est une synchronicité magique et donc, chère Isaline, nous avions rendez-vous. Je suis ravie d'être là à l'heure avec toi à ce rendez-vous. Pour me présenter, je peux vous dire que je suis Anne Cazobon, ça c'est pour l'identité, que ce qui me définit, je crois, le mieux, c'est que je suis une femme de parole, que les mots, l'expression multiple, la pluralité des pistes d'expression et ce qui symbolise et ce qui résume, je crois, mon chemin, qui prend des détours, des itinéraires bis, qui, voilà, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la radio, que ce soit dans les images, la réalisation de documentaires, que ce soit dans la peinture, l'illustration, voilà, de la langue des signes, qui a été mon premier métier d'interprète en langue des signes, jusqu'à vraiment l'expression voilà, plurielle. Voilà, je dirais que c'est ce chemin-là qui me résume le plus aujourd'hui, d'un D'accord. pan mis en mots, mis en bouche, à aussi création artistique ouais. et évidemment accompagnement et transmission à cet endroit-là pour d'autres aussi, pour faire voie de passage auprès d'autres.
D'accord. D'accord. Et donc, tu as passé avant 20 ans dans le journalisme.
Oui.
En tant que journaliste, animatrice radio. Et aujourd'hui, comme tu le dis, tu as choisi un autre chemin d'expression en tant qu'artiste plurielle, autrice, conférencière. Et comment, en fait, ton parcours t'a mené aujourd'hui à te réinventer?
En fait, donc moi j'ai commencé en tant qu'interprète en langue des signes. C'était vraiment, j'avais vraiment une fascination. Je sais que toi tu es très intéressée aussi par tout ce qui est travail des mains et peut-être que c'est à cet endroit-là qu'on se rencontre parce que j'ai commencé à apprendre la langue des signes quand j'avais 14 ans. J'étais vraiment fascinée par cette langue subtile que je trouvais, voilà, d'être ce pont entre ce que l'on entend et ce que l'on n'entend pas. Et donc j'ai vraiment appris ça. À l'époque, il y avait des grands dictionnaires de langue des signes avec des gestes dessinés, c'était vraiment bien avant Internet, les vidéos, hein, je pense qu'on est en 94, quelque chose ça. Et donc, je suis devenue interprète en langue des signes. Et puis, je crois que très vite, je voulais vraiment être journaliste. Donc, j'ai vite bifurqué pour repasser ensuite des études de journalisme. Et moi, au départ, je voulais être réalisatrice de documentaires striptease, comme en Belgique, justement. D'accord. Là, vraiment de... Alors, non pas pour faire des striptease, mais vraiment pour, je dirais, effeuiller la réalité et l'humanité. Et je voulais vraiment aller faire des documentaires sur les glaneurs et glaneuses de marché, voilà, journalisme social engagé. Et en fait, très vite, j'ai basculé en radio où visiblement j'avais voilà, des velléités et des facilités. Et donc, j'ai commencé vraiment tout un champ de journalisme radio, de matinal, de chronique, de reportage, de micro-trottoir, d'animation. Et puis ensuite, j'ai ouvert tout un champ de télé, en fait, de réalisation de documentaires et voilà, notamment beaucoup autour de la blessure psychique, donc le syndrome post-traumatique, notamment chez les soldats, voilà, retour de guerre impossible, voilà, où j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. J'ai aussi fait beaucoup de voix off, donc il y a vraiment tout un fil rouge autour de l'expression, de prêter sa voix pour quelque chose, pour des infos, pour une voix off, pour un doublage, jusqu'à revenir trouver sa propre voix personnelle et pouvoir lui laisser s'exprimer pleinement qui elle est. Voilà, son essence, je dirais, sa couleur, sa note juste.
D'accord. Et tu avais fait des études de journalisme
Moi, j'ai fait une fac d'anglais, j'ai une maîtrise d'anglais, j'avais passé une année à Montréal, une maîtrise d'anglais, et puis ensuite j'ai deux DESS, donc c'est des bacs plus 5, je crois.
Ouais.
Et donc j'ai un DESS en interprétariat en langue des signes. À l'époque, on était 14 à sortir interprète chaque année en France, en langue des signes française. Et puis ensuite, j'ai rebifurqué sur un troisième cycle en journalisme, production et programmation.
D'accord.
Voilà un peu pour... Et puis depuis, je suis une éternelle étudiante, puisque évidemment, j'ai entamé un long chemin de... Alors aujourd'hui, on dirait développement personnel. En tout cas, moi, je dirais redressement personnel pour vraiment... je crois, apprendre à être au monde, c'est un peu ça. Je pense qu'au début de la vingtaine, j'étais pas du tout... je dirais, à même de me saisir de l'existence en tant que telle. Je crois que je n'avais pas bien compris quel était l'enjeu que d'être en vie, l'enjeu que d'être incarnée, l'enjeu de ma mission au monde. Est-ce que j'en avais une? Laquelle était-ce? Etc. Et je crois que, oui, d'aller s'intéresser quand même un peu à tout ce qui m'encombrait, ou plutôt tout ce par quoi je me laissais encombrer et freiner dans tous mes élans créatifs, ça a été extrêmement salvateur pour pouvoir ensuite, je dirais, trouver de nouveaux terrains de jeu, d'expression à chaque nouveau virage. C'est ainsi que la peinture a émergé dans ma vie. C'est ainsi que la danse, le chant désormais. Enfin, c'est comme s'il y avait vraiment une... vraiment, j'ai l'impression d'être venue du silence et que voilà, tout un tas de petits fils intérieurs ou d'énergie intérieure ont tenté de trouver des voies d'échapper de quelque manière que ce soit.
Et ça s'est passé à quel moment? Parce que donc tu es journaliste, réalisatrice, ça se passe plutôt bien pour toi.
Oui, moi je suis une jeune femme plutôt très enjouée dans le monde, très investie. J'étais bénévole dans plein d'associations. Enfin, je suis, je dirais, en façade très heureuse dans ma vie, très ancrée, très insérée. Et en fait, à l'intérieur, j'ai vraiment je crois que c'est un effondrement psychique qu'on pourrait appeler. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Oui. À l'époque, pas du tout. Mais je crois qu'j'ai vraiment une impasse immense à un endroit sans véritablement me l'avouer. Mais je vois bien que ça va pas du tout et ça va de moins en moins. Et j'ai vraiment un endroit, une partie de moi à ce moment-là se raconte que la seule issue possible serait vraiment d'en finir pour arrêter de souffrir. La souffrance est tellement forte. Et donc c'est vrai que à ce moment-là, c'est un peu bizarre aujourd'hui d'en parler comme ça parce que je me sens plus du tout cette femme-là, évidemment, et j'ai vraiment l'impression de te parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être que ça peut donner de l'espoir à celles et ceux qui nous écoutent et qui traversent une période, parce que souvent c'est par période qu'on peut voilà, traverser un épisode dépressif, une plongée un peu dans les abîmes de l'âme. Et en tout cas, ce que je peux dire ici, c'est que sur ce quai de métro sur lequel je me retrouve, où je me dis, bon, bah, allez, trois petits pas et puis s'en va, et qu'un homme, en effet, reste là à côté de moi, et que parce qu'il reste là et parce que moi, je choisis de rester à ses côtés, qu'il y a quelque chose un peu où je sens que je ne suis pas lâchée totalement dans le vide, et que nos regards se croisent, et qu'à ce moment-là, en fait, je vois dans ses yeux qui, en une fraction de seconde, qu'en fait, eh bien, il a vu que j'étais quand même très mal en point à ce moment-là, et à ce moment-là, moi, presque de fierté, je croyais. Ça n'est pas possible qu'on me voie ainsi, moi qui ai bien dissimulé et masqué mon jeu à cet endroit-là. Et donc, très vite, en fait, je me mets au travail très sérieusement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est oui, il y a ce monsieur-là qui est là. Mais le plus important dans cette histoire-là, c'est qu'à partir de ce moment-là, le lendemain à 9h, je suis chez une accompagnante, une thérapeute.
Ah oui, donc ça a été...
un déclic immense. C'est-à-dire qu'ensuite, je fais priorité de ma santé mentale, c'est-à-dire que j'arrête de m'acheter des robes et de boire des verres en terrasse, et que je décide, parce que dans le pouvoir d'achat, il y a pouvoir de vraiment investir sur moi, au sens premier du terme, que je vois bien que je pourrais vivre tout plein d'expériences à l'extérieur, tant que mon intérieur ne va pas bien, ce ne sera pas bien. Et c'est ce que je constate encore aujourd'hui. Moi, j'ai plein de gens, ils peuvent être mariés avec des enfants... avoir la maison secondaire ou tout ce qui... Voilà, tant qu'à l'intérieur, ça ne va pas, ça ne va pas de toute façon. Donc, c'est vraiment comment redresser sa maison intérieure. Et aussi, ce travail-là m'a permis de mesurer combien ça n'était pas le seul inconnu, évidemment, ou le premier inconnu à me sauver la vie, entre guillemets, ou à être là pour moi, et qu'en fait... À me redresser, donc c'est-à-dire à arrêter de regarder mon nombril et l'endroit où je m'étais raconté une histoire comme quoi c'était horrible, le monde était atroce et tout le monde m'en voulait et j'étais vraiment la cinquième roue du carrosse, etc., etc. Extrêmement défaitiste, fataliste, etc. Eh bien, j'ai pu voir combien, en fait, à chaque instant dans ma vie, mais depuis toute petite, il y avait toujours eu quelqu'un qui avait été là, de la dame au square à la dame de cantine, à... le passant qui, etc., etc., de que plein de gens, en fait, sur mon chemin, même de petites filles, adolescentes, jeunes filles, jeunes femmes, etc., et évidemment, jusqu'à aujourd'hui où nous nous parlons, qu'en permanence, sur notre chemin, il y a des gens qui sont là, parce que nous sommes tous interreliés, oui. Tous interconnectés, et parce qu'il suffit, entre guillemets, hein, et tout de même, ça peut être juste un déclic de changer sa paire de lunettes sur le monde pour véritablement le voir et véritablement appréhender l'existence d'une toute autre manière. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie bascule, en fait, ça a été de changer d'une posture où je m'autoflagelle, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ça m'arrive, hein, c'est la vie qui m'arrive, les tuiles qui me tombent sur le nez, on me veut, voilà, qu'est-ce qui me cherche encore, etc. Et c'est vraiment attirer aussi, quand même, en co-créant avec la vie, ben, tout un tas de fâcheuses épreuves, ou en tout cas de catastrophes personnelles et de surtout pas arrêter, je dirais, le cercle vicieux. C'est vraiment le mouvement, pour moi, c'est vraiment enlever les lunettes, les essuyer un peu et les remettre. Alors, qu'est-ce qui se passe si je choisis de me dire que, a priori, on est tous venus s'incarner, peut-être pas juste pour souffrir pendant 85 ans, par exemple. Est-ce que je peux venir appréhender l'existence d'une toute autre manière, que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a reçu, on vient faire l'expérience de l'existence et qu'il y a certainement tout un tas de choses à apprendre de cela. Et déjà de commencer à regarder la vie de cette manière-là, ça change tout.
Ouais, ça, j'en suis persuadée. Et effectivement, changer ses lunettes, se dire que la vie vaut la peine, parce que quand on souffre, on se victimise aussi. Enfin, il y a quelque chose... comme tu disais, c'est au fond de nous, donc il faut essayer d'aller mieux, et c'est possible.
Et je crois vraiment qu'en fait, on n'est pas venu pour souffrir, ouais, en fait, parce qu'il peut y avoir vraiment un... c'est la vie, c'est comme ça. Non. Bien sûr, la vie, il y a des montagnes russes, etc. Mais en fait, la souffrance n'est pas obligatoire. Je ne suis pas venue pour en baver pendant toute une vie, pour trimer, payer des impôts et finir à l'EHPAD. Non, ça n'est pas vrai.
Ça, c'est vrai. Et moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. Parce que quand il y a des moments un peu plus difficiles où je me le dis, et c'est 99% du temps vrai, enfin même 100%, après la pluie vient le beau temps. Moi, pour moi, c'est une phrase, quand ça va un peu moins bien, je dis non, mais ça ira mieux, donc il faut continuer. Si une mauvaise passe, on est dans la tempête, mais ça va aller mieux.
Et cette phrase-là, je la connais en dicton africain, qui dit « la pluie ne saute jamais un village ». En fait, ils attendent tellement la pluie, évidemment, parce qu'il fait très chaud, et donc c'est vraiment genre, chaque village aura sa dose de pluie. Et donc ça, je trouve ça très joli aussi.
D'accord.
Alors, dans les dictons météorologiques.
Donc ça, c'était le point météo. Si on continue, donc ça, ce point de bascule, c'était tu as commencé à travailler, c'était au bout de combien de temps ?
C'était vraiment le tout début de la vie active. Moi, c'est vraiment au tout début de... Mais c'était, je crois, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de où je saute sur les rails du métro, où en fait je fais le plongeon dans la vie active et je fais le plongeon dans la vie, en fait, avec un vrai grand oui à la vie. Et là, il y avait quelque chose un peu du « alors, choisis ton camp, choisis ta voie, choisis plutôt que subir ». Et je crois que c'est vraiment là l'enjeu, hein, d'arrêter de subir sa vie et comment est-ce que je peux refaire des choix conscients. Il est coutume de dire « on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut ». Ma croyance, c'est qu'on a toujours le choix.
Oui, tout à fait. Et effectivement, c'était très beau parce que je plonge sur une rail de métro ou dans la vie. En fait, il vaut mieux plonger dans la vie. Au pire, on s'en remettra toujours.
Oui, parce que je crois que le oui mais non à la vie, le je plonge mais en fait, j'y vais pas tout à fait. Oui. Je plonge mais j'y vais un peu avec un plan B, un plan C, un plan D. C'est quand même... pas y aller tout à fait. Et en fait, on peut même relier ça à tous les projets, puisque ce podcast est aussi autour de comment je mène mon projet, comment je m'engage vis-à-vis de l'œuvre que je mets au monde. Donc ça peut être me regarder faire sur l'endroit où j'y vais un peu sur la pointe des pieds, ou sur j'y vais un peu où je fais ça un peu en dilettante, sur j'y vais et je fais pas ça très sérieusement, sans se prendre au sérieux, hein, mais juste sur le je le fais pas très sérieusement, j'y crois pas trop, ou je me raconte toute une histoire à ce sujet-là. Et donc, ça invite à venir regarder la vie. Et évidemment, la manière dont nous la menons nous invite en permanence, si on le souhaite, à regarder quelles sont nos croyances sur la vie, sur la réalisation de soi et évidemment d'œuvres au monde, sur l'abondance, sur le succès, sur la réussite, sur le partage aussi de tout cela.
D'accord. Et alors, choisi de plonger dans la vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes ton job et tu te lances dans une quête ou... Comment tu t'y prends?
Et ben je monte une vie en parallèle. J'ai presque l'impression d'avoir une double vie à l'époque où vraiment j'entame vraiment un grand pan journalistique où je fais des matinales radio, des chroniques, des piges à droite à gauche. Je pars en reportage, en tournage, en manif, etc. Et puis le week-end, je suis dans des stages de chamanisme, je suis dans des stages de thérapie, je suis vraiment, je mets le paquet. Très vite, je goûte et je trouve que j'ai en y mettant le paquet, en y allant sérieusement, en faisant alliance avec des gens en lesquels la confiance et l'alliance se passent, je sens vraiment que je peux aller beaucoup mieux et que je vais déjà beaucoup mieux au fur et à mesure des séances et des stages. Les stages qui sont évidemment des accélérateurs, hein, qui sont des TGV de la thérapie et du redressement personnel, moi je l'appelle vraiment comme ça. Et je vois bien que plus j'investis dans ces espaces-là, plus l'existence a un goût de miel. Et donc vraiment, je vois comment je peux me redresser, je vois comment je reprends de la puissance personnelle, non pas du pouvoir, mais bien de la puissance personnelle, combien je peux faire mes choix, combien je peux être là aussi pour mon prochain. Je crois vraiment, pour avoir été dans des associations où parfois le bénévole est en fait celui qui se raconte, qui vient donner du temps, sauf qu'il avait parfois le plus besoin lui-même d'aide. Je crois profondément que c'est très important de d'abord se mettre le masque à oxygène. Hein, c'est cette fameuse image qu'on raconte. Hein, mais d'abord de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite donner du temps en conscience, en présence et aider son prochain. Donc ça, c'est vraiment... très important. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Oui. Donc ensuite, si je veux vraiment aider le monde, œuvrer depuis non pas un endroit de blessure ou de réaction, mais bel et bien depuis un endroit d'apaisement, d'acceptation, d'équilibre intérieur, pour ensuite pouvoir transmettre tout ce que j'ai alchimisé à l'intérieur et ensuite en faire feu de tout bois et pour le monde, ça c'est très important.
D'accord. Et donc après, qu'est-ce qui se passe?
Et donc après, qu'est-ce qui se passe?
Raconte-nous tout.
Eh bien, donc là, pendant 25 ans, je mène cette existence de journalisme et de redressement personnel. Et puis, il y a 6 ans, je crois, la radio, ça s'arrête. Et je sens que ça fait déjà un petit moment que je sens bien même que j'ai mené tout un chemin radiophonique qui, à un moment donné, s'est rapproché de la santé et puis du développement personnel et puis de la thérapie. Et puis voilà, j'ai même animé des émissions le soir où les gens venaient raconter leur vague à l'âme, leurs endroits d'ombre et de traversée. Et je vois bien qu'en fait, un endroit où j'avais imaginé qu'il n'y avait qu'une seule voie possible, VOX, qui était vraiment la voie journalistique parmi les grands médias, j'avais sous-estimé évidemment ce qu'étaient les réseaux sociaux, ce qu'était potentiellement YouTube, ce qu'étaient les podcasts, enfin, je veux dire, tout le reste qui
est même
bien plus large que... on est sur la fin d'un système, hein, clairement, de radio dite générique. Et aujourd'hui, il n'y a même pas photo en termes de bassin d'audience et d'impact, puisque c'est ça qui est très important. Moi, je ne veux pas être influenceuse, je veux être influente par les messages qui passent à travers moi. Et donc, là, j'ai basculé en tant qu'accompagnante. Vraiment, je sentais qu'à ce moment-là, au bout de 25 ans de redressement personnel, j'étais prête à me lancer dans l'entrepreneuriat, à me mettre moi-même à accompagner. Et donc, j'ai commencé à coacher, à accompagner, à organiser des retraites, à permettre... c'était marrant parce qu'il y avait tout un tas justement de journalistes avec lesquels j'ai travaillé pendant des années qui sont venus dans les espaces que je proposais. Donc, il y avait comme un fil rouge aussi à cet endroit-là. Et puis, le confinement est arrivé et là j'ai vraiment entendu que ce projet de Merci à un inconnu que j'avais un peu déjà déployé à la radio, j'avais monté quelques émissions où je demandais aux gens de venir me raconter leur Merci à un inconnu, justement leur sur ces dernières émissions où les gens pouvaient venir raconter combien quelqu'un leur avait tiré une épingle du pied, comment les gens avaient pu les aider. eh bien, j'ai vraiment entendu en fait que c'était désormais un compte Instagram. Donc, j'ai créé ce compte Instagram qui s'appelle aujourd'hui Merci à l'inconnu. Et j'ai commencé à y poster mes premières histoires personnelles. Et puis, en changeant les prénoms, en mettant mon deuxième et troisième prénom, j'ai continué de raconter mes propres histoires. Ça faisait un peu de volume, comme ça. Et puis, on était en plein confinement. Donc, je demandais un peu à mes amis, à ma famille de me raconter des histoires. Et donc, voilà, le compte a pris un peu comme ça. Et puis très vite, les gens se sont mis à raconter leurs histoires. Et très vite, en fait, il y a eu... c'était marrant parce qu'au début, d'ailleurs, les gens racontaient des histoires un peu du bout du monde, de voyage. Et puis très vite, on s'est resserré dans une chambre à soi, voilà, dans quelque chose de...
C'était l'effet Covid. On a pris soin des autres, de nos proches et... On ne faisait pas attention à nos voisins.
De la dame en face à laquelle j'envoyais un message, de la voisine du dessus. Donc ça, c'était très, très marrant. Je suis rentrée dans ce projet qui me dépassait un peu, en fait. Moi, je n'avais jamais eu l'idée de monter un compte Instagram. Instagram, j'avais 200 abonnés perso, je pense. Voilà, et j'y postais mes photos de vacances et de salades. Très vite, il y a quelque chose qui s'est installé avec ça. Et très vite, j'ai senti que c'était en fait très fort et que ça allait m'accompagner longtemps. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Je voyais bien que quand j'étais journaliste radio, pendant longtemps, j'avais proposé des journaux de bonnes solutions, de bonnes nouvelles. J'ai beaucoup tourné autour de ça. Et en fait, à un endroit, finalement, ce compte Instagram devenait un peu ça. Devenait un endroit sur lequel, une fois par jour, il y avait une belle histoire qui s'imprimait là, alors je réécrivais un peu, je mettais un peu en forme les histoires. Je dirais que ce conte-là, il a vécu plusieurs phases, hein, comme si aujourd'hui on disait qu'un média, il avait eu plusieurs directions, hein, ou un restaurant, ou changement de propriétaire, mais c'était un peu ça. C'était toujours moi la propriétaire, mais je changeais un peu de forme. Donc parfois je réécrivais, parfois je faisais des captures d'écran, parfois je demandais à des gens de m'aider, parfois j'ai payé des gens parce que j'avais plein d'autres... à côté, il fallait que je mène mon entreprise aussi, que je déploie toute ma part d'accompagnante, de coach en media training, de mise en mots, coach des conférences, etc. Évidemment, en tant qu'ancienne journaliste, c'était mon terrain d'expertise. Donc, c'est évidemment là que je pouvais œuvrer, aussi de permettre à des couples de communiquer. Hein, vraiment, tous les mots et la conscience des mots sont au cœur de tout mon travail. Et donc, ce projet a cheminé de cette manière-là avec ces histoires. Et moi avec, en fait, ou toujours en marge de mes activités, j'ai toujours continué de, aujourd'hui on dit un peu de travailler sur soi, mais en tout cas de trouver des espaces de libération pour, là encore, un peu les épluchures, les peaux de l'oignon et enlever les vieux manteaux et les masques et aller de mieux en mieux. Et reposer de plus grands oui à la vie. Et puis récemment, ce qui est venu, c'est que c'était plus tout à fait cette histoire de merci à un inconnu. Même, je te le disais tout à l'heure, je me sens plus reliée à cette histoire de quai de métro. C'est une âne que je ne connais plus. Je crois qu'elle n'est plus vraiment, même si on est toujours un peu des poupées russes. Mais ça me parle plus, en fait. Oui. C'est vraiment très loin de moi.
C'est normal, il y a des cycles comme ça.
Exactement.
Tu avais sûrement besoin de passer par là et ensuite pour te révéler ailleurs ensuite.
Et en fait, je crois que tu vois, tu fais partie d'un des derniers podcasts où je le raconte parce que c'est aussi l'objet de ton podcast, de raconter un peu le processus qui est créatif, etc., des projets. Il me semble qu'à cet endroit-là, ça peut être intéressant pour certaines personnes.
Ouais.
J'aime y voir cet intérêt-là, en fait, parce que fondamentalement, pour moi, ça m'intéresse moins de... Tu vois, en tout cas, je ne m'identifie plus à cette femme-là. En tout cas, la bascule, à mon sens, est intéressante de passer de merci à un inconnu qui est donc collé à l'histoire du créateur ou de la créatrice pour un projet, à changer de nom pour aller vers merci à l'inconnu avec un I majuscule qui donne une dimension beaucoup plus large. Et là, j'ai vraiment l'impression de quitter le pédiluve pour aller vraiment dans le grand bain de l'illimité, pour aller vraiment dans un endroit où... L'histoire n'est plus de créer un petit compte Instagram sur lequel il y a un peu de contenu good vibes avec une petite histoire feel good en bon français de France qui tombe tous les jours, qui est réécrit, etc. pour un endroit, en fait, continuer de nourrir ce truc de « Ah, ouf, ça ira bien. Ah, il y a quelqu'un qui pourrait me... Ah, ben, ah, le monde n'est pas si terrible. Alors, regardez, là, à Metz, il s'est passé ça. À Brest, il s'est passé ça. À Lille, il s'est passé ça. » Et qui, je trouve, nous continue de nourrir. Alors, je ne le pensais pas à l'époque, mais aujourd'hui, je le crois. Voilà, si on le regarde depuis cet endroit, qui peut être un peu dans le « Allez, c'est pas si grave. Allez, dormez bien, les petits. Hein, » voilà, il y a quelque chose un peu de... passif, je crois, qui aujourd'hui commence à me déranger. Et je crois que dans Merci à l'inconnu, il y a vraiment cette histoire de paire de lunettes, à nouveau, de comment est-ce que j'envisage la vie, comment est-ce que véritablement je fais acte de foi, en fait, en la vie. Je sais que je me suis incarnée et que ce n'est pas par hasard que je suis là. Je ne crois pas du tout au hasard. C'est très important que chacun se rappelle de combien de spermatozoïdes. voilà, quelle est la probabilité pour que chacun ici soit incarné en vie et écoute ce podcast à ce moment-là. Je crois que c'est important parfois, même si c'est vertigineux, hein, mais quand même de se remettre un peu à cet endroit-là et de voir qu'est-ce que je choisis de faire de cette existence-là. Alors, j'irai sur un terrain quand même, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué de l'hypnose, et pour celles et ceux qui ont pratiqué l'hypnose et qui ont peut-être eu d'autres champs de perception qui leur sont apparus, qui leur ont été montrés, parfois, je peux vraiment voir et vraiment expérimenter le fait que nous ne sommes pas là par hasard, les uns les autres, et que nous avons, les uns les autres, un enjeu. Quel qu'il soit, que tant que c'est pas fini, que nous avons peut-être par une phrase, par un geste, même pour la dame ou le monsieur le plus grabataire ou à un endroit, voilà, juste en respirant chez lui, chez elle, dans un EHPAD, il a encore une utilité pour un regard, pour un geste, pour ce qu'il va déclencher chez l'autre à l'occasion de l'autre. Et donc ça, c'est très important d'assumer et vraiment d'accepter le fait que du début jusqu'à la fin, nous avons une utilité, que la personne la plus handicapée, la plus malade, souffrante, etc., son existence a un sens pour quelqu'un, quelque part, que nous sommes tous interreliés. Et ça, c'est très, très important de le remettre au centre de sa perspective de vie, en fait. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça décentre le sujet de « et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça ? Où cours-je ? Où vais-je ? Dans quel étagère ? Où cours-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ?» Et donc, c'est vrai que c'est vraiment important, d'accepter ça pour pouvoir ensuite mettre au service tous ces talents, tous ces dons pour la communauté. L'idée, justement, je crois que souvent, on a dévoyé un peu le développement personnel en disant « Oh là là, regardez tous ces gens qui se regardent le nombril, tous ces gens qui s'écoutent parler, tous ces gens, etc. » Je crois au contraire qu'il faut, pour le vrai travail, et ici, nous parlons bien du vrai travail, hein, je ne parle pas juste d'un petit atelier en ligne ici ou là, je parle vraiment des gens qui se saisissent des sujets qui se répètent dans leur vie, des gens qui véritablement se mettent au travail pour arrêter de faire souffrir leur entourage, de se faire souffrir et de se laisser chuter jusqu'au fond de la cuve. Et qu'il faut vraiment du courage, de l'abnégation, de l'engagement, du dévouement au service de la vie pour vraiment venir libérer tout ce qui les encombre et ensuite de mettre tout ça au service du monde. Et je crois qu'à cet endroit-là, il y a comme une petite musique un peu qu'on entend beaucoup du « oh là là, tous ces trucs de mindset, de motivation, etc. » Il y a une espèce d'entrepreneur bashing aussi un peu. Il y a quelque chose un peu comme ça qui quand même part d'un endroit de « dormez bien les petits », hein, restons justement petits, hein, pourquoi est-ce qu'on grandira ? Oh là là, il faudrait faire tout ça pour justement... et d'un endroit de victime, en fait, vraiment, et de souffrance. Un endroit où justement on ne regarde pas que le bien-être a tué le vrai travail thérapeutique et la vraie libération, et que donc sous couvert de « allons-nous faire un petit ice bath et allons-nous faire un petit performer, pilate, etc. » Ben voilà, on va passer à côté du véritable enjeu. Le vernis uniquement.
Il n'y a pas de plongeon.
Et plus le plongeon, alors le plongeon, il peut faire peur. Le plongeon, il peut... évidemment, il y a plein de choses à lâcher. Et en même temps, il y a tellement de choses à gagner derrière. Parce que plus je plonge profond, plus je monte plus haut. Ouais. Et ça, quand je comprends ça, j'enclenche ce système-là après, avec les bonnes personnes, avec des personnes de confiance, avec de la sécurité, avec du cadre, avec de l'engagement de part et d'autre. C'est absolument magique et magnifique. Je crois que c'est vraiment parmi les plus belles expériences de toute ma vie.
Oui, oui, c'est ça. Apprendre à se connaître et qui nous sommes, parce qu'on est souvent biaisés par notre éducation, par des croyances qu'on nous a mis dans la tête. Et en fait, savoir, comme tu disais tout à l'heure, enlever toutes ces couches, en fait, et voir qui on est vraiment au plus profond de soi-même.
Oui, ces croyances qu'on nous a mis dans la tête, comme tu dis, et aussi qu'on a achetées par amour pour nos parents, pour éviter de ne pas être aimé, pour éviter de ne pas perdre la tribu, le clan, le groupe d'amis. Donc, je vais penser comme eux, faire comme eux, etc. Ouais. Et donc, ce truc un peu qui est difficile parfois de quitter. Et parfois, il y a beaucoup à perdre que de... je peux me raconter qu'il y a beaucoup à perdre que de se choisir pour pouvoir pleinement choisir sa vie et se remettre et prendre sa place et se remettre au centre de sa vie pour pouvoir offrir sa plus belle contribution au monde. Et en même temps, tant que je ne regarde pas à côté de quoi je passe, les frustrations qui s'accumulent, le gâchis immense de mes talents pour le monde et la contribution que je pourrais offrir, le partage, tout plein de beauté, de création, de solidarité. Il y a des projets immenses qui peuvent se mener quand les uns et les autres se choisissent pleinement. Et à cet endroit-là, c'est un peu comme le voyage du héros, hein, selon Joseph Campbell. Il y a quand même un peu 2-3 dragons intérieurs d'abord à venir rencontrer pour pouvoir pleinement assumer de prendre sa place pleinement et de devenir leader de sa vie, artiste de sa vie, artisan de sa vie, peu importe entrepreneur de sa vie, acteur de sa vie.
D'accord. Mais pour quoi faire ? Pour fabriquer et créer sa vie à son image.
Oui, oui, la co-créer avec la vie, en fait. Moi, j'aime bien cette idée de co-création. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis à cet endroit-là, en co-création de mon scénario de vie avec... je peux être scénariste, réalisatrice, premier rôle, principale, maquilleuse, figurante, effets spéciaux, Et donc, vraiment, je suis responsable de... la conscience que je mets sur le fameux aquarium dans lequel moi-même je tourne, hein, je crois vraiment à ça, on est tous avec un aquarium de croyances, d'héritage, de... ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les podcasts. C'est pas la même chose une réalité quand j'écoute le JT de 20h tous les soirs que quand je ne l'écoute pas. C'est pas la même chose quand j'écoute tel ou tel podcast. C'est pas pareil quand je reste pendant 3-4 heures à écouter des discussions où ça vibre bas, entre guillemets, où ça critique, où ça médit en permanence. C'est pas la même je me sens pas pareil quand je sors de ça. Et donc, c'est important de déjà venir mesurer un peu où sont les endroits dans lesquels je me sens bien, où sont les endroits vraiment qui m'élèvent, qui m'inspirent, qui me nourrissent. Et ensuite, de commencer à venir se mettre un peu en métaposition, hein, se mettre un peu au-dessus pour regarder, non pas au-dessus des autres, hein, c'est toujours au-dessus de soi, c'est toujours par rapport à soi qu'on chemine. Et donc, de venir regarder ce qui est peut-être de trop dans mon aquarium, comment est-ce que je peux enlever telle ou telle croyance, comment est-ce que je peux dire au revoir à telle ou telle version de moi, tel ou tel archétype intérieur. Moi, j'aime bien parler de ces sous-parties intérieur, donc le juge intérieur, la petite fille blessée, l'adolescente rebelle. L'adolescente rebelle, si aujourd'hui elle est aux commandes de mon projet professionnel ou créatif, ça peut faire un peu des dégâts dans les partenariats. Celle qui se raconte que ce sera toujours les autres qui passeront devant elle, il peut y avoir beaucoup de frustration nourrie à ce moment-là, au fil du temps, là aussi. Donc c'est vraiment de prendre un peu ce temps de recul et puis parfois d'avoir l'humilité, je crois, d'oser se faire accompagner dans ce travail-là.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels ou en cours ? Nous parler de tout ce qui est du projet de la constellation des possibles, en quoi ça consiste, comment ça se décline, quel type de formations de retraite tu proposes et à qui tu t'adresses?
Alors aujourd'hui, je veux plus parler de constellations. En fait, là aussi, ça évolue, mais c'est pas grave. C'est intéressant, tu vois. C'est un peu le podcast de justement pour raconter ça. Ouais, du changement. Parce que le changement, c'est maintenant. Et justement, en fait, je crois profondément que les mots ont une énergie et qu'ils créent la réalité. Et pendant tout un temps. Je suis très heureuse de ce podcast parce qu'en fait, je crois que ça peut être important. Il y a tant de gens, et moi j'ai fait partie à cet endroit-là, de m'enfermer dans j'ai nommé de cette manière-là le projet, ou j'ai dit oui à ça, ou j'ai cru à ça, j'ai été identifiée en tant que telle pour plein de gens à cet endroit-là, je n'ai plus le droit de changer. Je suis désormais dans ce bassin-là, je suis prisonnière de ça et je devrais y évoluer ainsi toute ma vie. Non, ce n'est pas vrai. Pendant un temps, en effet, j'ai vraiment beaucoup travaillé autour des constellations, ce qu'on appelle les constellations, qui sont un outil d'une puissance rare, à mon sens, qui est une sorte de jeu de rôle, théâtre de rôle, un peu qui travaille justement avec ses sous-parties. Voilà, il y a ce terme constellation. Alors moi, je l'avais rebaptisé constellation des possibles parce que déjà, je travaillais avec le futur, avec les prochaines grandes versions de soi, avec non plus, c'était un travail thérapeutique non plus orienté vers le passé, les traumas, mais vraiment, il me semble d'aller vers quelque chose de plus vertueux et plutôt que de ressasser sans cesse les traumas. Et je trouve que voilà, c'est un investissement que de se faire accompagner. Et si c'est juste pour venir remuer une nouvelle fois les traumas dans la vase, ce n'est pas très intéressant. Parfois avec des accompagnants qui eux-mêmes n'ont pas fait le travail jusqu'au bout et qui ne font que remettre une bûche dans le feu. Donc, je ne trouve pas ça très vertueux. Et donc, pendant un temps, ça a été super. Et je crois que là aussi, ma pratique a évolué et que je travaille désormais beaucoup plus au-delà des possibles, en fait, vraiment avec la géométrie sacrée. Donc là aussi, on est vraiment sur l'inconnu avec un grand I, la vie avec un grand I aussi, avec un grand V. En fait, les constellations, c'est un nombre limité. Dans le ciel, il y a un nombre limité de constellations. Et donc, je me disais, mais c'est un peu idiot, en fait, de travailler sur l'illimité alors que le nom est limité. Par essence, c'est presque antinomique. Et en fait, je préfère parler de systémie holistique. Alors ça, c'est un peu de la tambouille pour des termes, mais je dirais que c'est de la systémie, en fait. C'est vraiment venir travailler les systèmes internes. Et à mon sens, tant que je ne mets pas le doigt sur ce qui se raconte à l'intérieur et surtout sur ce qui se répète et se joue et se rejoue en sous-marin en permanence, eh bien, je peux mettre tous les vernis, je peux repeindre mon site internet, je peux changer de nom, je peux... changer de logo sous toutes les coutures, tant que j'ai pas changé ma manière de fonctionner intérieurement, etc., il se passera pas grand chose, que ce soit dans mon couple, que ce soit vis-à-vis de moi, que ce soit dans mon entreprise, ce sera toujours la même chose dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport à l'amour, l'abondance, la vie, voilà. Et donc, c'est vraiment, à mon sens, comment changer son système pour changer ensuite sa narrative interne, en fait, l'histoire que je me raconte. Il y a des gens qui se racontent qu'en permanence, c'est eux qui doivent tirer leur partenaire vers le haut. Il y en a d'autres qui se racontent que leurs enfants leur prennent de l'énergie. Il y en a d'autres encore qui se racontent... Voilà. Il y a plein de gens qui se racontent plein d'histoires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'elle sort souvent l'histoire très rapidement dans une discussion, même sur un tout autre sujet. Mmh. Ce sont des gens qui disent « Ah bah, on n'a que ce qu'on peut. Hein. »
Oui.
Voilà, ou « Ah bah, ouais, bah, c'est comme ça. Mmh. » Voilà, donc la vie, c'est comme ça. Bon, ouais. Bah, voilà, donc accepte ce que tu as et puis voilà, contente-toi. et donc ça, ce sont presque en fait comme des slogans de leur vie et qui pourraient être attribués à tous les pans de vie. Et donc ça, c'est pour celles et ceux qui souhaitent et qui comprennent qu'il est possible de transformer tout ça pour se faire vivre une toute autre réalité d'existence. Là, le jeu devient très intéressant. Ouais. Là, on sort de la matrice. Et là, vraiment, quand je commence à comprendre les règles du jeu, quand je comprends qu'il va me falloir plonger à l'intérieur pour faire un grand tri intérieur, l'écologie intérieure, aller ranger un peu ma cave et mon grenier, pour ensuite, une fois que j'ai les règles du jeu de la vie, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, pouvoir véritablement co-créer avec la vie une existence vertueuse au service de la vie, en mettant talent et don au service d'autrui, voilà, ça devient très très intéressant.
Ah ouais. Et souvent, oui, ce qu'on se raconte, c'est nous qui on a beaucoup d'imagination. C'est souvent nous qui nous racontons une histoire, et en fait, la réalité est parfois tout autre. Mmh.
Ah oui, moi, je me suis vraiment raconté plein de choses sur la vie pendant longtemps. Et je crois que j'aurais rêvé de savoir beaucoup plus tôt, par exemple, qu'en fait, il y a une théorie qui dit que j'ai choisi de venir m'incarner pendant le moment où on se parle ici, que ça a été un choix. Et en fait, rien que ça, j'entendais l'autre jour dans une émission quelqu'un qui disait mais oui, mais moi, je n'ai pas demandé à naître, ce qui est un peu un truc, voilà, les adolescents peuvent dire ça, etc. Ouais, je ne crois pas du tout à ça. C'est une part d'eux qui dit ça, mais je crois surtout qu'il y a beaucoup de souffrance à vivre que de se raconter ça. De vivre une vie que je me raconte ne pas avoir choisie, bah franchement, je compte les jours, effectivement, jusqu'à la mort. Alors que, en fait, si à cet endroit-là, quelqu'un vient me dire, je te rappelle que si tu es là, crois-moi, c'est que vraiment tu as choisi d'être là, ça vient parler à l'âme, c'est très profond. Là, on est au-delà de tout, hein. On est au-delà de l'identité, du prénom dont on se fiche, mais vraiment, on parle d'âme à âme, de vraiment, en fait, tu es venu faire quelque chose ici, crois-moi, tu avais mille et une portes de sortie ici, tu as été jusqu'au bout, si tu as une telle pulsion de vie pour venir jusqu'au bout, t'incarner et traverser tout ce que tu as traversé et être debout sur tes deux jambes ici, maintenant, etc., il en faut déjà sacrément. Et donc, qu'est-ce que tu choisis désormais pour ta vie, pour ton existence? Est-ce que tu continues de te plaindre? Est-ce que tu continues de... Voilà, comment est-ce que tu peux agir et comment est-ce que tu peux œuvrer? C'est vrai, j'aime beaucoup se faire œuvre de sa vie, en fait.
Oui, et choisir d'être acteur de sa vie plutôt que d'être un figurant qui voit les autres passer devant... Oui, sur la route de la vie, nous on reste ici sans rien faire. Donc, moi, j'aime bien ça aussi, devenir actrice de ma vie.
Oui, parce que il y a quand même quelque chose, tu vois, j'observe ça pour moi et pour toutes celles et ceux que j'ai accompagnés, que j'accompagne, c'est que arriver au milieu de vie, on en parlait un peu tout à l'heure, mais peu importe les cases que j'aurais cochées, que la société, les conventions. Voilà, ce qu'on me vend, la pub, voilà, comme une vie réussie, une vie réalisée. Tant que finalement, à un endroit, je ne me suis pas réalisée, ça ne compte pas. Ouais. Je peux avoir la plus jolie famille, la plus jolie maison, le plus joli salaire, job, carte de visite sur le papier. Si à un endroit, il y a un vide abyssal sur une quête de sens, sur une complétude à cet endroit-là, ça ne fait pas le poids dans la balance.
Non, c'est clair.
Et l'âme, elle se lasse à cet endroit-là. Tu vois, l'âme, elle peut dévisser à cet endroit-là.
Ouais, d'accord. Et est-ce que tu te considères, parce que j'ai vu ça sur ton site et je trouvais ça très joli, comme une passeuse de gratitude.
En fait,
je trouvais ça super beau. Voilà.
Oui, parce que je crois vraiment que ce gratitude is an attitude, c'est vraiment une posture de vie. Et que il paraît, alors on va dire, il y a une théorie qui dit que plus, quoi que la vie me serve sur un plateau, si le plus rapidement possible je peux être dans la gratitude de ce qui m'est proposé, que ce soit un cadeau dit mal emballé ou un truc génial qui arrive, une opportunité, une chance, une victoire, etc. D'être en permanence en gratitude fait accélérer le processus, de toute façon. Et donc, mes deux, la contravention qui me rappelle que je n'étais pas dans les clous, etc., et que le cadre, c'est important pour que, justement, mon œuvre puisse exister au monde, la belle rencontre, le coup de fil qui tombe au bon moment, etc., etc. D'être en permanence dans un merci, quoi qu'il arrive, qui pour moi est le plus beau mot de la langue française, c'est important. Et donc, certes, avec merci à un inconnu, merci à l'inconnu, et aussi dans le travail qu'on fait, dans les accompagnements que je propose, d'être parfois, je peux être en colère contre mes parents, il y a plein de gens qui gardent beaucoup de griefs contre leurs parents, contre leurs proches, et on fait tout ce travail d'aller rendre ce qui a été trop lourd, et aussi, et d'aller vraiment dans le « et aussi », d'être en gratitude sur tout ce qui a été. Et parfois, même sur des familles hautement dysfonctionnelles, il y a quand même des gratitudes. Il y a au moins le merci de m'avoir transmis la vie.
Oui, complètement. Et puis, il y a un moment... Enfin, tout à l'heure, tu parlais du... C'est vrai, du passé, de peut-être travailler sur comment on peut construire l'avenir plutôt que d'aller refouiller le passé. Moi, ce que j'aime bien, une image que j'aime beaucoup, c'est lâcher un peu les valises du passé. C'est-à-dire, OK, je les mets de côté. Bien sûr, j'y retourne de temps en temps, mais le passé est passé. Donc, essayer de travailler à comment je peux essayer d'améliorer mon présent et mon avenir, quoi.
En fait, c'est tant que je ne comprends pas que plus je me retourne vers le passé, plus je ne fais que créer du passé.
Ouais, c'est ça.
Alors que le présent, la situation présente dans laquelle je suis, n'est que la résultance de tout ce que j'ai mis en place dans le passé. Et que donc, vouloir fouiller le passé, c'est-à-dire, mais c'est presque de la posture. En fait, si je regarde ça, si c'est vraiment je me retourne et j'ouvre la valise et je déballe et je mets le nez dedans, c'est pas du tout la même chose que de me mettre face à une prochaine grande version de moi. Et là, venir voir quel est le pas que j'essaye de faire ou que je n'arrive pas à faire ou qui se sent un peu tiré, écartelé par un élastique qui tire un peu derrière. C'est tout autre chose comme travail, de sentir à quel endroit j'y vais pas, à quel endroit je me freine toute seule, à quel endroit je me raconte une histoire, que j'ai pas le droit, que j'ai pas le choix, etc., etc. C'est pas du tout la même démarche que de me mettre à quatre pattes, à ouvrir ma valise et à trier, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup moins de temps à perdre à cet endroit-là.
Et alors, tes accompagnements, ils se déclinent comment? On arrive à toi et comment on peut être accompagné.
Donc aujourd'hui, je déploie tout un programme d'accompagnement autour de femmes de parole. J'ai vraiment très à cœur, parce que tu l'as entendu, c'est mon chemin aussi d'expression plurielle, pour toutes les femmes en fait. Je crois que particulièrement sur les réseaux sociaux, voilà, aujourd'hui on est toutes amenées à s'exprimer, à venir justement l'ouvrir. Le plus important étant de ne pas l'ouvrir depuis le mauvais endroit, c'est-à-dire pas depuis des endroits de blessure pour aboyer avec la meute. Ou être en réaction. Il n'y a rien de pire hein, que des posts en réaction ou des prises de parole en réaction ou des ouvrages en réaction. L'idée, c'est vraiment là aussi d'être en écologie intérieure, de qu'est-ce que je choisis d'émettre dans le monde, hein, qu'est-ce que je choisis de créer comme post, comme livre, comme œuvre dans le monde et quels mots je choisis d'employer, comment je choisis d'exprimer mon travail. Donc que ce soit, voilà, quel que soit, je dirais, l'endroit où ces femmes œuvrent, ce peut être évidemment des podcasteuses, des conférencières, des autrices, des accompagnantes, des managers, des leaders, des salariés, peu importe. Enfin, voilà, toutes les femmes qui sentent qu'elles ont un message fort pour le monde et qui sentent qu'en fait, elles sont pas au bon endroit, sentent que le bon endroit, c'est sentir voilà, que j'ai une petite frustration où je vois d'autres parler alors qu'elles ont beaucoup moins de compétences, beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins d'expertise que je n'en ai dans mon domaine. Et alors là, les réseaux sociaux en sont pleins, en sont pleins. Et donc, c'est vraiment... je crois profondément dans le travail qu'on fait dans Femmes de Parole, qui est un accompagnement d'un an. C'est vraiment au-delà d'aller, oui, regarder peut-être les sites internet, d'aller regarder comment je me nomme, quels sont les titres, entre guillemets, que je prends. Est-ce que je suis, je sais pas quoi, facilitatrice, coach, accompagnante, thérapeute, leader, c'est pas du tout les mêmes vibrations hein, de mots. Et aussi, quelle histoire je me raconte et qui je choisis d'être désormais au monde. Donc, c'est plutôt tout ce travail en profondeur. Je veux dire, on ne va pas du tout regarder uniquement la vitrine, justement la coquille, mais bel et bien la transformation profonde intérieure. C'est pour ça que ça dure un an. Il y a vraiment, on va descendre en U comme ça, hein, pour vraiment venir, je dirais, récurer tout ce qui encore appelle parfois à dévisser de manière inconsciente, tous les angles morts, tout ce qui coince à la réussite et à la diffusion surtout. C'est très intéressant de voir dans ces groupes-là de femmes combien il n'y a pas du tout une demande de finalement de venir regarder les mots, etc. Mais ce qui émerge, c'est plutôt le dimanche à table, il y en avait que pour ma sœur et pas pour moi. Ou j'ai toujours entendu tais-toi. Ou il y avait écrit trop de bavardage. Ou etc. etc. Et c'est plutôt ces choses qui sont finalement très ancrées, qu'on vient un peu débusquer, lever, qui émergent et qu'on va travailler de manière systémique et voilà, orientée pour chacune. Donc ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment Voilà, il y a quelque chose de... Moi, j'avais entendu comme ça dans une cérémonie chamanique, tu es là pour faire monter les femmes aussi. Et donc, il y a vraiment... L'idée, c'est pas d'y aller le point levé, c'est d'y aller depuis un endroit apaisé, depuis un endroit aligné, en fait. Vraiment, des femmes qui cherchent un alignement et une tranquillité dans leur communication au monde, des messages qu'elles portent, puissants, souvent, sous le, voilà, pour le monde.
D'accord. Et donc, tu t'adresses qu'aux femmes.
Donc ça, c'est pour, voilà, ça, c'est pour femmes de parole. J'accompagne évidemment beaucoup d'hommes,
D'accord.
notamment en individuel aussi, des chefs d'entreprise aussi. J'ai toute une formation aussi qui s'appelle l'arbre en soi, voilà, qui est vraiment justement pour celles et ceux qui commencent à se mettre sur ce chemin de l'enfance, de la guérison de l'enfant intérieur, des lignées d'hommes, de femmes, du transgénérationnel, du poids des lignées, qui commencent à s'intéresser à leur arbre, qui sont un peu en conflit peut-être avec... des choses qui se sont passées, qui veulent justement passer, voilà, faire la paix avec leur arbre, faire la paix avec ce qui a été. Et justement, voilà, laisser le passé au passé pour éviter de le ressasser et de le rejouer au
Ouais, c'est
présent.
ça.
Donc ça, c'est vraiment pareil. Là, j'ai tout un accompagnement pendant un an. Il y a un certain nombre d'autres programmes. Et puis, j'ai un troisième axe qui est vraiment l'axe de merci à l'inconnu, qui pour moi est tellement, tellement changeant. Ça change tellement la donne. Mon existence, ma vie, mes yeux sur le monde sont tellement, tellement différents aujourd'hui de tout ce que j'ai pu regarder, des choix que j'ai pu faire à l'époque quand je ne croyais pas du tout à ça, que je crois que c'est vraiment très important de le transmettre. Et donc ça, c'est vraiment pour, là aussi, un accompagnement un peu au long cours pour passer d'une vie subie à une vie choisie. Si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour tout le monde, évidemment. Et là, c'est vraiment, il y a quelque chose pour moi qui est très, qui réhabilite beaucoup, qui est très réparateur pour moi de pouvoir transmettre désormais, voilà, depuis un autre endroit, je dirais. Ouais, depuis, voilà, de pouvoir partager aujourd'hui, que certes, bien sûr, que d'offrir des compliments à des gens dans le métro, certes, d'offrir des petits mots aux gens, certes, de diffuser tous ces messages dans l'espace public, ça peut aider et en même temps. Il est très important de prendre soin de soi et de sa santé mentale. Et aujourd'hui, quand je vois que un jeune sur quatre se dit en dépression, que un jeune de 15 à 29 ans sur quatre se dit dans un état dépressif, je me dis que vraiment il y a beaucoup de travail et que donc voilà, j'ai envie d'œuvrer à cet endroit-là, de proposer moi peut-être un accéléré. Voilà, je sais que ça peut être long et en même temps, j'aurais aimé savoir tout un tas de choses bien plus tôt. Et donc, je vais mettre évidemment voilà, un condensé de ces 25 années de redressement personnel dans cette formation-là pour, voilà, pour faire passer les messages qui me semblent sont essentiels à cet endroit-là.
Et notamment quand tu disais, par exemple, qu'il y a un étudiant, un adolescent sur quatre qui se dit en dépression ou pas en joie de vivre, est-ce que tu penses que c'est un problème actuel ou ça a toujours été mon
Alors, je pense un peu des deux. Évidemment, le Covid n'a pas aidé, c'est certain. C'est certain. Je pense que le Covid enfin, la pandémie a appuyé sur un bouton qui était qu'en fait, comme ça a tout arrêté, tout le monde a été obligé de regarder très en face son existence. Il est très facile de fuir l'existence. Hein. Voilà, je peux scroller des heures, je peux fumer des heures, je peux boire, je peux. Enfin voilà, il y a mille et une manières de s'échapper de l'existence, d'éviter de penser à qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, etc. Qui est un peu vertigineux là encore comme question. Sauf que la question n'est pas qui suis-je, la question est qui je choisis d'être. Et quand déjà je décale un peu ça pour accepter que une part de moi a dit oui. Ok, donc qu'est-ce que je fais de ça plutôt que de tenter de m'échapper de la réalité en me retournant la tête tous les week-ends, en m'oubliant dans les jeux vidéo, dans le virtuel. Et évidemment que là, il y a une, enfin voilà, ça monte très très fort, hein, l'artificiel, l'intelligence artificielle, le virtuel, le sans contact. On est vraiment dans une société de plus en plus qui coupe de plus en plus les liens, alors que l'humain en anglais, on dirait is craving. C'est vraiment ça. Il n'a que soif de ça. Il n'a que soif de lien à lui-même d'abord, pour ensuite faire lien avec l'autre. Et donc, effectivement, il y a quelque chose. Voilà, il y a plein de facteurs, évidemment. Je pense que ça devient un sujet. Alors, du coup, ça devient un peu un sujet fourre-tout. On met, je sais pas quoi, les TDAH au milieu des
oui.
bipolaires, au milieu de,
oui.
des dépressifs, au milieu de... Voilà, donc effectivement, il faut poser un nom pour tout le monde, etc. Et je ne suis pas sûre que tout ceci amène à faire le vrai travail qui s'appelle un travail thérapeutique auprès de quelqu'un de compétent qui permet de déposer et de ressentir. Parce qu'une émotion, il faut le rappeler, c'est 90 secondes. Ça peut durer toute une vie si je trouve en permanence des portes de sortie pour éviter de ressentir. Et si je trouve un espace sécur auprès de quelqu'un de compétent pour ressentir ce à quoi j'échappe inconsciemment depuis des années, ça ne dure que 90 secondes. Et parfois, c'est dommage de passer à côté de sa vie et de son potentiel réalisé juste pour un inconfort de 90 secondes. C'est très important de regarder ça.
Oui, tout à fait. Ah ouais. Et puis souvent, alors souvent, je ne sais pas, mais enfin, des choses qu'on a pu entendre pendant notre enfance ou le début de notre adolescence qui peuvent nous rester comme ça ancrées en soi pendant pas mal d'années.
Les petites phrases assassines.
Ouais. Comme ce que tu disais tout à l'heure, tais-toi, on t'a assez entendu, alors voilà, on se tait. Et puis on finit par vraiment se taire, quoi.
Et ça, c'est vraiment prendre le temps d'aller s'asseoir avec cette part-là, d'aller s'asseoir avec cette petite fille, ce petit garçon intérieur qui n'ose pas gagner plus d'argent que son père, qui n'ose pas épouser cet homme-là parce que, etc. Enfin, il y a mille et une histoires, évidemment, de loyauté. Hein. C'est très fort, la loyauté. Ça oblige, ça peut pousser à faire des choses pour éviter de perdre le lien, pour éviter de perdre voilà, l'acceptation, pour éviter de perdre le regard, la reconnaissance, la validation, la tribu, le groupe, évidemment.
Alors que finalement, est-ce qu'on n'est pas plus accepté ou mieux accepté quand on se révèle vraiment, quoi.
Mais ça va demander un travail personnel de consolidation intérieure, parce qu'effectivement, quand je commence à faire ce pas de côté, tout plein de gens qui étaient dans un système qui était bien rodé avec moi, donc on est tous les uns les autres dans des multisystèmes, dans plein d'aquariums, on a le système des amis d'enfance, on a le système de la cage d'escalier, on a le système des copains de l'école de commerce qu'on a fait, ou je sais pas quoi, on a le système du service dans lequel on travaille, etc. etc. Et le jour où l'un ou l'autre bouge, le jour où l'un ou l'autre démissionne, le jour où l'un ou l'autre crée son entreprise, son projet, etc., ben, tout le monde va venir projeter tout un tas de choses dessus, donc l'endroit où lui ou elle n'a pas pris de décision à cet endroit-là. Donc c'est ce qui se passe quand... c'est toujours pareil quand il y a un système qui commence à se transformer, à se modifier. C'est ce qui se passe quand les quatre bons copains qui font les 400 coups, il y en a un qui finalement se marie et là, d'un coup, ça change la donne.
Ouais.
C'est un service dans lequel il y a quatre aides-soignantes et puis il y en a une qui part en congé mat et l'autre qui est malade. Et d'un coup, le travail de quatre personnes retombe sur deux personnes et ça va venir appuyer sur des boutons qui vont venir libérer tout un tas de choses.
Mmh. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu dis que tu réenchantes le quotidien.
C'est pas moi qui le dis, mais,
enfin, non, mais c'est, je trouve ça très joli. Mais il y a beaucoup de dans ce que tu proposes, il y a aussi beaucoup de poésie. Et... Alors, est-ce que tu as d'autres projets à côté de tes formations, tes retraites?
Là, je voudrais vraiment me consacrer vraiment à l'écriture et aux conférences aussi pour aller justement porter cette parole-là, pour aller raconter comment le merci, le bravo en entreprise, là aussi, peut être vraiment salvateur. Comment est-ce que la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance est tellement important. Comment est-ce qu'on peut éviter que les uns les autres souffrent? Il y a tellement de mal-être au travail. Comment est-ce que justement dans l'espace public, si on avait davantage d'histoires positives, inspirantes, les uns et les autres passeraient à l'action, justement, pour offrir ces gestes désintéressés aux uns et aux autres. Et puis, évidemment, de mettre tout ceci par écrit aussi. Donc, j'ai quelques ouvrages en cours.
Et tu arrives à tout concilier parce que oui, tu es un peu sur tous les fronts. Comme tu dis, tu es une femme plurielle. Et comment tu arrives à tout concilier? Parce que c'est...
Écoute, là, c'est particulièrement un grand virage, je crois. Donc, c'est aussi redéfinir, évidemment, tout cet écosystème-là, toute cette nouvelle identité. Donc, c'est un travail important, je dirais, d'ancrage dans la matière. Et en même temps, je crois que le gros du travail, entre guillemets, a été plutôt en sous-marin ces derniers mois. Depuis 2, 3 ans, là, ça a été sacrément intense et je crois que là, je me suis remise sur, je crois, mes propres rails. En tout cas, je crois que j'arrive à bon port pour pouvoir délivrer la suite de cette aventure depuis un autre endroit et un endroit avec lequel je suis plus en phase aujourd'hui, en tout cas plus alignée. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alignement. D'ailleurs, je n'achète que des vêtements à rayures alignés. J'ai vraiment une garde-robe alignée, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai que des carnets à rayures. Verticale. Donc il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là, oui.
Voilà. Mais oui, mais comme quoi? Bah, en fait, c'est que tu l'as visualisé et tu le remets dans ta vie, sur tes vêtements, sur tes cahiers. Est-ce que toi, tu as des rituels ou des choses comme ça qui te permettent de mener ta vie comme tu as envie de la mener avec un alignement? Est-ce que tu as des petits tips, des petites choses, des rituels pour aller bien?
Pour aller bien. Et alors moi, j'habite en baie du Mont-Saint-Michel. J'habite vraiment sur une plage et il y a quelque chose que j'adore faire, c'est ramasser des coquillages. C'est vraiment, depuis toute petite, c'est une de mes grandes passions. J'ai des magnifiques, immenses coquillages en plus sur cette plage-là et vraiment tous les jours, j'essaye d'aller marcher 1 heure sur la plage et je marche et je danse et je chante et vraiment c'est un endroit pour ma petite fille intérieure libre. C'est vraiment un endroit où je peux crier, chanter, mais c'est plutôt laisser chanter quelque chose, tu vois, danser, voir vraiment quelque chose de très libre. Au début, j'y allais avec mes écouteurs, j'écoutais un peu ma musique ou un podcast, et en fait, très vite, j'ai arrêté. Pour vraiment laisser ce qu'il y a, parfois je pleure, parfois, tu vois, c'est un endroit de douche presque émotionnelle, parfois, c'est un endroit de presque téléchargement d'un projet, tu vois, d'idées plus claires. Je me dis, ah tiens, ça, c'est une bonne idée, ça, ah ça, je pourrais le tourner de cette manière-là, j'ai des mots, des phrases, parfois j'ai un chant qui vient. Tu vois, c'est un endroit de connexion. J'ai un peu l'impression d'aller dans ma cabine téléphonique de l'inconnu, tu vois, avec un grand I, mais c'est vraiment ça d'être pieds nus sur le sable, d'être vraiment au contact du vent, des oiseaux, des éléments. Mais ça pourrait être, voilà, en forêt pour certains, mais vraiment la marche en nature. Je prends quand même mon téléphone parce que parfois comme de temps en temps il y a de la vase ou quoi au gaz, une ou deux fois je me suis fait un peu peur, j'avais pas mon téléphone donc je me dis je le prends quand même au cas où, en étant voilà, ça reste quand même un endroit très sauvage et je vais loin généralement donc ouais, toute seule je me dis
Oui,
c'est toujours bien, mais c'est vrai que voilà, j'ai la chance de pouvoir être dans le vivant ouais, 1 heure par jour d'avoir ça,
c'est un
c'est un
luxe.
peu mon non négociable.
Ouais.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as employé le bon mot. Pour moi, c'est ma définition du luxe. En tout cas, je crois pas du tout à cette version du luxe des sacs à main et des hors-bord
Parce
et
que
des
tu
talons
chantes.
rouges. Voilà, je crois profondément de recréer une vie depuis un autre endroit où je peux voilà faire des rituels avec mon amoureux, d'avoir des temps vraiment d'échange de qualité, des marches à deux avec lui aussi de temps en temps en silence aussi. Enfin, tu vois, des choses vraiment qui nourrissent le couple, qui nous nourrissent individuellement, des espaces. Ça, je crois que c'est un ouais. C'est quelque chose de chouette. Et puis, je travaille aussi beaucoup l'écriture en ce moment. Et donc, je fais vraiment mes pages du matin de Julia Cameron. Et ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup cette douche de mots. Voilà, je travaille mon robinet de mots à cet endroit-là. Et j'aime bien ça. L'écriture automatique, ça m'aide
Ouais, c'est
beaucoup.
ça. Ouais. D'accord, c'est marrant parce que je me retrouve là-dedans, moi étant une fille du bord de mer où j'ai grandi vraiment à côté de la plage, c'est tout à fait ça, entendre le bruit des vagues, sentir l'air iodé. Moi, je le sens dès que j'arrive, dès que je sors du train, je le sens. Je sens cette terre et ça me fait énormément de bien. Et pareil avec les coquillages, mais j'en ramasse toujours. Même s'il faut plus trop en ramasser, j'en ramasse toujours un en souvenir, comme ça je le mets dans ma petite collection.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça fait énormément de bien, effectivement. Pour finir, j'ai quelques petites questions. Tu me réponds vraiment. Tu me réponds comme ça te vient. Est-ce que tu as un geste au quotidien ou une habitude quotidienne qui peut changer une journée?
Qui peut changer ma journée.
Et ben, alors, je vais te dire, j'ai la chance d'avoir un amoureux qui m'amène un mug de café le matin dans mon lit. Et ça, je crois vraiment que, en fait, de commencer ma journée par une attention de mon amoureux, c'est vraiment très précieux.
Ouais.
En fait, à chaque fois, je me dis, quelle chance, je me sens honorée. Vraiment, je me sens choyée, je me sens vue, je me sens comprise, je me sens, tu vois. Et en fait, oh, il y a quelque chose de vraiment de prendre le temps un peu le matin, tu vois, d'écrire dans mon lit ou de, voilà. Il se lève plus tôt que moi et tu vois, il me monte le mug de café.
Et un petit plaisir simple.
Oui, en fait. Et je le demande pas en fait. C'est, je trouve ça joli. Tu vois, comme attention. Et quand même, je trouve que c'est, tout de suite, ça fait basculer ma journée, en fait.
Et est-ce que c'est pas le fait, c'est, est-ce que c'est le fait qui te porte cette attention, couplé de, d'avoir un café
chaud aussi, c'est vrai. C'est vrai, oui. D'étirer un peu ce moment du matin. J'ai mis en place, alors ça aussi, c'est un autre luxe, j'ai mis en place le fait que je n'ai plus de rendez-vous le matin. Donc en fait que vraiment, j'ai fait des matinales radio, donc je me suis levée très très tôt dans ma vie. J'ai mis des réveils à 1h30, voilà. Donc je sais ce que c'est que de vivre la nuit, et c'est vraiment aux antipodes de mon rythme. En fait, moi je suis vraiment quelqu'un du soir, et donc en fait moi je, idéalement ma vie est sans réveil. J'y arrive pas encore tout à fait, mais le matin, moi, je suis vraiment, à partir de 19h, je suis, je peux travailler jusqu'à 2-3h du matin. Enfin, je suis vraiment du soir, en fait. Et donc, j'essaye de respecter ça de plus en plus. Et donc, voilà, d'étirer un peu ça le matin sans être trop sur le téléphone ou sur les mails, mais de, voilà, d'avoir un carnet ou de lire dans mon lit. Enfin, voilà, de prendre le temps de « Ah tiens, j'ai rêvé de ça », de prendre le temps d'accueillir les messages de la nuit, prendre ce temps-là, parce que je sais que derrière, je travaille beaucoup, mais de ne pas violenter le corps à cet endroit-là aussi. Oui, oui. De la démarrer avec ça.
Ouais.
Et puis, je lève les volets, j'ai vraiment vu sur la mer et les oiseaux. Donc, vraiment d'accueillir ça.
D'accord.
De plus courir le matin.
Ouais, ouais.
Ça a changé beaucoup de choses.
Ouais, ouais. Bon, je crois connaître la réponse, mais le lieu où tu te sens le plus vivante.
Ouais, là où j'habite.
Voilà. Le dernier inconnu ou la dernière inconnue à qui tu as dit merci.
alors attends, c'est il n'y a pas longtemps. Ah si. Si, il y a cette. Alors moi j'aime bien dire merci pour les gens qui s'habillent en couleur parce que la couleur a tellement disparu que quand je croise un magnifique manteau orange, quand je vois une veste vert fluo, quand je vois un camailleux de voilà comme un perroquet ou une belle robe rouge, voilà, je dis waouh et je dis merci en fait parce que je crois vraiment que c'est un cadeau que de s'habiller en couleur. Je crois que c'est un cadeau que de prendre soin de soi et de voilà de l'offrir au monde aussi et vraiment je dis merci en fait c'est je complimente et je remercie.
D'accord. Et si la gratitude était un plat, quel serait-il?
Une burrata.
Ah ouais.
Oui, la burrata
comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase ou un mantra qui te porte au quotidien?
Ouais, moi c'est vraiment. Alors j'en ai deux. Alors, je vais en donner deux. Il y a cette phrase de Mark Twain qui dit il y a deux moments importants dans la vie. Pardon, c'est Hemingway. C'est Hemingway qui dit « Il y a deux moments importants dans la vie. Il y a ce premier moment qui est le jour où je découvre mon talent, je prends conscience de mon talent. Et le deuxième, c'est le jour où je choisis de l'offrir au monde. » Et puis vraiment, mon mantra, c'est « Be a voice, not an echo. » Donc, soyez une voix et pas un écho. Ça, c'est très important.
Ouais. D'accord. D'accord. Est-ce que, alors tu as beaucoup parlé au début de plus jeune et encore aujourd'hui, tu t'exprimais beaucoup à travers que ce soit l'art, la danse, etc. Est-ce qu'il y a un art qui t'émeut plus qu'un autre?
Aujourd'hui, c'est vraiment la poésie dite. Donc, vraiment le oral, tu vois, voilà. Alors maintenant, ils appellent ça des scènes ouvertes.
Ouais.
Le slam, voilà, la poésie dite et bien dite, ça me touche profondément. En fait, la langue française qui est tellement malmenée, tellement nivelée par le bas, je trouve que dans des espaces, voilà, hier j'étais au concert de Clara Isée à l'Olympia, et à un moment donné, elle a vraiment déclamé un de ses poèmes sur scène, et elle termine par « Que vive la poésie, que vive la poésie, que vive la poésie », voilà, sur un magnifique solo de piano, et c'était d'une puissance folle. C'est rare, en fait. C'est rare. Et c'est précieux, c'est très nourrissant, surtout.
Ouais, pour l'avoir vu en concert, c'est très rare d'avoir autant d'émotions dans un concert. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Est-ce que tu te souviens d'une rencontre qui a changé ta vie ou ta vie?
J'en ai plein parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Et c'est ça l'enjeu de Merci à l'inconnu, en fait. C'est de parfois regarder un peu dans le rétroviseur et de regarder tous ces inconnus qui ont changé la vie de chacun. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup. C'est un travail magnifique, ça, à faire pour aussi mesurer le chemin de l'existence, mesurer que je ne suis pas toute seule au monde à vivre mon petit bout de chemin et à tenter d'exister dans ce monde qui va dans le mur. Mais de regarder toutes celles et ceux qui ont été là, que ce soit une prof, évidemment, ou un prof. Que ce soit, encore une fois, voilà, une dame à l'école, une mère ou un parent d'un ami d'enfance aussi. Hein. Il y a vraiment, je trouve que ce sont un peu des tuteurs, ces adultes-là aussi, parfois auprès desquels on grandit. Parfois, ça peut être des inconnus de voyage. Il y a plein d'inconnus de voyage qui ont fait des déclics immenses auprès desquels je me suis confiée, sur l'épaule desquels j'ai pleuré. Donc, il y a vraiment plein de gens. Je crois, je vais ici quand même rendre un sérieux hommage à toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée. Donc, je vais vraiment parler ici de tous les coachs, thérapeutes, accompagnants. Voilà, on va mettre une étiquette accompagnant de ces femmes et ces hommes qui se mettent au service du vivant dans le vivant, c'est-à-dire qui choisissent de dédier leur vie à ce que tout le monde aille mieux. Et à ce que chacun puisse incarner le changement qu'il voit dans le monde, qu'il souhaite voir dans le monde. Et donc, vraiment, je vais vraiment dédier ça. Voilà, ce travail de l'invisible, en fait, hein, qu'ils ne font pas des opérations à cœur ouvert. Moi-même, je ne fais pas d'opérations à cœur ouvert. Et toutefois, dans les espaces que nous proposons les uns les autres, pour celles et ceux qui sont des accompagnants sérieux, et ce sont ceux auxquels je pense et auxquels j'ai eu la chance de goûter vraiment cet accompagnement et de me transformer à leur côté, je crois qu'il y a de l'ordre de la chirurgie de l'âme qui opère parfois. Et donc ça, c'est extrêmement précieux dans une vie.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour terminer, qu'est-ce qui te fait sourire aujourd'hui au sens propre du terme?
Alors, ce qui me fait sourire en ce moment, c'est que parfois j'ai vraiment l'impression que je suis à Disneyland, que vraiment je vois de plus en plus ce grand jeu de cette illusion, en fait, hein, j'aime bien cette phrase que quand on était petit, on aurait dit qu'on jouait à la marchande, on aurait dit que, et là c'est un peu ça, on aurait dit que on enregistrait un podcast et que tu me posais des questions et que j'allais y répondre, on aurait dit que la dame là-bas travaille dans le café dans lequel nous sommes, etc. Donc ce jeu un peu de, voilà, dans cette vie-là, j'ai choisi de jouer le jeu de, voilà, et ce grand jeu un peu, ce jeu de la vie en fait, de prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de... Et donc, ça me fait sourire, voilà, de parfois de me voir, moi, m'énerver pour des trucs en me disant, non, mais attends, dans cinq ans, tu n'y penseras même plus. Qu'est-ce que j'ai à m'énerver sur ce mail ou sur cette amende ou sur cette dame qui a mal parlé ou quoi ou qu'est-ce, en fait. Je crois profondément que c'est du travail, hein, et en même temps que le jour où je gagne, c'est le jour où je ne me laisse plus déclencher par qui que ce soit.
Ouais. Tout à fait.
C'est vraiment qui que ce soit qui s'énerve, qui parle de cette manière-là à des enfants, à des adultes. Voilà, je ne me laisse pas happer par cela. Et donc voilà, de s'en amuser un peu, de regarder. Ok, donc toi ici, l'expression du féminin, c'est comme ça que tu as choisi de la vivre. Et toi ici, c'est donc différemment. Et toi ici, l'expression de la famille, c'est ça. Et toi ici, l'expression du podcast, c'est de cette manière-là, etc. Et en fait, d'honorer le fait qu'il y a toutes ces vérités-là dans le monde, en fait, sans qu'elles soient les unes contre les autres.
Oui, c'est ça, parce que chacun, on revient toujours à la même chose, mais chacun a sa propre histoire, donc les réactions des gens, on ne peut pas les contrôler, et c'est comme ça.
Et je ne peux accepter et accueillir toutes les vérités que porte le monde le jour où j'ai vraiment regardé toutes les vérités en moi. C'est ça. Quand je me suis vraiment regardée dans ma part hyper sombre, dans ma part très jugeante, je peux regarder avec beaucoup plus d'amour quelqu'un qui juge et qui critique sans cesse. Quand je me suis regardée dans ma part tête en l'air, je peux regarder avec compassion celui ou celle qui oublie tout le temps les rendez-vous, etc., etc., etc.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on finirait pas sur la vie est un jeu, en fait ? C'est vrai, faut la prendre un peu comme un jeu.
C'est le titre d'un des livres que je voudrais écrire. Tu vois, la vie est un jeu, mais parce que la vie est un jeu J-E-U et J-E aussi, parce qu'elle est un jeu que je peux choisir de changer, de transformer à chaque instant. Je peux jouer le jeu d'une vie méga dépressive, je peux jouer le jeu d'une vie tortionnaire, je peux jouer le jeu d'une vie « oh, c'est pas grave, on verra demain », je peux jouer le jeu d'une vie « non, ça c'est super important, je me plie en quatre pour mes projets », etc., etc. À chaque instant, j'ai le choix.
Exactement, on a toujours le choix. Il n'y a pas de
je crois.
Bon ou mauvais choix, il y en a un. Et merci Anne, merci.
Merci Zaline.
Pour ça, c'est super intéressant.
Avec plaisir.
Et puis je te dis à bientôt.
À bientôt Zaline, merci.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré, donné envie d'en savoir plus sur le bel univers d'Anne Cazobon. Je vous invite à retrouver toute son actualité sur annecazobon.com ou encore lesconstellationsdespossibles.com. Vous y retrouverez toutes les infos sur ses formations, accompagnements et retraites. Elle est également présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Anne Cazobon. Cazobon avec un Z. J'ai été très heureuse d'interviewer Anne, d'abord pour son côté solaire qui fait du bien. J'ai découvert une femme aux mille vies et qui ne compte pas s'en arrêter là. Et ça mérite tous les mojos du monde. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole et Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive les 1 an de ce podcast.